J'aimerais parler sur la croissance de l'Église dans Actes chapitre 2 et nous lisons à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous savons que Jésus a lui-même fondé son Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église » et encore aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, ce sont des pierres vivantes qui ont été rassemblées pour former le corps de Christ. Donc c'est une réalité spirituelle. L'Église, c'est un organisme vivant. Ce n'est pas un statique. L'Église est appelée à se développer, un petit peu comme une plante qui va germer, qui va pousser et qui va devenir, par exemple, un arbre. La graine va pousser et développer des racines et s'étendre de manière importante. L'Église, donc, est appelée à se développer et à se multiplier, à donc à grandir. L'Église va grandir et il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'Église grandit. On en trouve 8 dans ce passage. 8 raisons qui évoquent la croissance de l'Église. La première, c'est que c'est la volonté de Dieu, tout simplement, que l'Église grandisse. Dans Actes chapitre 2 et au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Donc on voit ici, dès le début de l'Église, parce qu'en réalité, elle vient de naître dans le chapitre 2, il y a eu ce baptême du Saint-Esprit, il y a eu le corps de Christ qui a pris forme. Avant, les disciples se réunissaient un petit peu dans les maisons, mais elles n'étaient pas encore vigoureuses, elles n'avaient pas encore pris la place qu'elle va prendre maintenant. L'Église, là, prend vie et elle va se développer de suite. Donc, 3000 personnes vont être rajoutées à l'Église. C'est intéressant de lire le livre des Actes des Apôtres quand on veut parler de l'Église, parce que ce livre raconte l'histoire des premières Églises, les premières, toutes premières Églises. Et en fait, on se rend compte à plusieurs reprises, j'ai noté 3 références, en plus de Actes 2, 41, où il est mentionné que les disciples ont augmenté, que l'Église a grandi. Par exemple, Actes chapitre 5, verset 14. On est toujours dans le début de l'Église. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On voit toujours cette volonté de Dieu que son Église ne reste pas stationnaire, mais qu'elle progresse. Un petit peu plus loin, au chapitre 6 et au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Il y a une précision ici que le nombre des disciples augmentait beaucoup, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu que son Église se développe et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et enfin, on va un petit peu plus loin au chapitre 16 et au verset 5, c'est le même principe, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc ça, c'était quelque chose de normal, c'est quelque chose de spirituel, c'est que l'Église, une fois qu'elle est implantée, eh bien, elle est appelée dans le cœur de Dieu, son désir, c'est de la voir se développer et de se multiplier. Dieu veut la croissance. Si vous regardez le récit de la Genèse, Dieu a créé d'abord Adam. Adam, il était tout seul. Il souffrait d'ailleurs de la solitude. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc, Adam cherchait dans le jardin d'Éden la compagnie. Alors, c'est vrai qu'il y avait les animaux, il y avait toutes sortes de choses agréables, mais il n'avait pas trouvé d'aide semblable à lui. C'est pourquoi Dieu l'a fait dormir d'un profond sommeil, et pendant qu'il dormait, issu de son côté, ou de sa côte, selon les traductions, eh bien, il a formé Ève, Dieu a formé Ève, qui va être son vis-à-vis, et qui va devenir donc sa femme. Et quand Adam va se réveiller de son sommeil, et il va tout de suite comprendre que Ève est maintenant son vis-à-vis, et de un, donc ils sont passés à deux. Ensuite, Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc la vision de Dieu, c'est quoi? La croissance. Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève restent deux, mais il voulait qu'ils se démultiplient et qu'ils grandissent, qu'ils forment des familles. Donc ils ont eu des enfants, qui ont eu à leur tour des enfants, etc. Et ça a formé les familles de la terre. Donc dès l'origine, en fait, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous restions un petit nombre ou un petit groupe, mais c'est que cette cellule qui a été formée par l'Église, eh bien, elle se développe. Là, c'était dans le cas de la famille, mais c'est vrai pour l'Église. Donc c'était vrai pour Adam et Ève. Plus tard, il y a l'appel d'Abraham. Abraham était aussi tout seul quand il a été appelé, mais avec sa femme, Dieu lui a fait une promesse et lui dit de suite, je ferai de toi une grande nation. Donc la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que de ce couple, Abraham et Sarah, ils puissent se démultiplier pour arriver à une grande nation. Donc la croissance. Donc ça a mis son temps, il y a eu un délai important entre la promesse et la réalisation, mais Isaac est arrivé. Et ensuite, à partir d'Isaac, il y a eu Jacob. Et à partir de Jacob, il y a eu les 12 tribus d'Israël. Et à partir des 12 tribus, il y a eu tout le peuple d'Israël. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, le peuple d'Israël existe toujours et ils sont les descendants d'Abraham et d'Isaac. Donc on voit que la volonté de Dieu, c'était pour Abraham qu'il devienne une nation, qu'il se développe, qu'il multiplie. Donc on voit que c'est un principe divin, Dieu désire la croissance. Ça, c'est le premier aspect. Pourquoi l'Église grandit? C'est parce que d'abord, c'est la volonté de Dieu. Le deuxième aspect qui est très important, qu'on trouve dans Actes chapitre 2, c'est la prière. Le texte dit qu'il persévérait dans la prière. Et on se rend compte tout de suite que la prière, c'est fondamental pour engager, encourager la croissance de l'Église. Sans la prière, ben, il n'y a pas de croissance parce que c'est spirituel. Et on sait que dans la prière, il y a un combat. Dans la prière, il y a des victoires qui sont remportées. D'ailleurs, l'Église, si vous vous rappelez dans le début du livre des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils se réunissaient dans la chambre haute, pour quoi faire? Pour prier. Ils priaient, et c'est dans un moment de prière qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et que l'Église a pris corps. Donc vraiment, la prière, c'est fondamental. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, les églises historiques qui ont négligé la prière, elles ont périclité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ferment ou qui disparaissent. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus la recherche de Dieu, on ne s'attend plus à Dieu, on entretient des bâtiments, on entretient des doctrines, mais il n'y a plus la vie, la recherche de Dieu, la soif de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. On a mis ces choses de côté, on les a vécues peut-être dans le passé, il y a 50, il y a 100 ans, mais petit à petit, ces églises historiques, elles ont peut-être 300, 400 ans d'existence, elles ont perdu le feu. Elles ont perdu la flamme. Quand vous perdez la prière, vous perdez tout. Alors, dès le début de l'histoire de l'Église, il y a eu de l'opposition. Hérode, le roi, s'est levé contre les chrétiens. Il a maltraité, il a même fait décapiter Jacques. Jacques, c'était un des piliers de l'Église de Jérusalem. On pourrait dire comme un pasteur ou un responsable spirituel qui a été décapité. Ça a mis un coup aux chrétiens. Il avait bien l'intention de décapiter Pierre aussi dans les Actes des Apôtres. Et alors, que faisait l'Église dans ces moments de persécution? Actes chapitre 12, verset 5. Le texte dit que Pierre était gardé dans la prison, donc il était prévu qu'il comparaisse le lendemain pour être exécuté. On est à 24 heures de son exécution. La Bible dit « L'Église ne cessait d'adresser pour lui, c'est-à-dire pour Pierre, des prières à Dieu. » La situation était vraiment désespérée. Il n'y avait pas d'issue, Jacques était mort. Il semblait que Pierre allait subir le martyre. mais l'Église n'a pas baissé les bras, elle s'est réunie dans la prière et dans la foi. La prière, c'est notre part, frères et sœurs. Nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Même dans les situations les plus compliquées, les plus défavorables, attendons-nous au miracle. Et alors qu'ils priaient, et ils ne le savaient pas, ces chrétiens, qui étaient réunis dans une maison, la plupart des églises étaient des églises de maison, ils étaient là en train de prier Dieu pour Pierre, et pendant qu'ils priaient, il y a un ange que Dieu a dépêché pour aller dans la prison, faire tomber les chaînes de Pierre, donc les soldats étaient vraiment endormis, et Pierre a pu sortir de la prison. En fait, pendant que les chrétiens priaient, ils ne le savaient pas, mais Dieu était en train d'exaucer leur prière, d'agir dans la prison. Donc le miracle, c'est vraiment la part de Dieu. Notre part, c'est de prier sans nous relâcher, comme ces chrétiens qui priaient pour Pierre. Et la part de Dieu, soit il envoie un ange, soit il intervient d'une manière miraculeuse, soit il donne une parole, il ouvre une porte qui est fermée, qui est bloquée. Eh bien ça, c'est la part de Dieu, maintenant c'est le miracle. Donc le deuxième grand principe qu'on voit dans ce texte, après la volonté de Dieu, c'est la prière. La prière, ça doit être vraiment une constante dans notre vie spirituelle. Le troisième élément qui ressort de ce texte, c'est maintenant l'évangélisation. Le texte dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, au verset 47, acte 2, 47. Donc, ils étaient ajoutés à l'Église. Une fois qu'ils sont sauvés, ils ne sont pas chez eux ou dans la nature, eh bien, ils sont ajoutés au corps de Christ, ils font partie de l'Église. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne voient pas cette dimension de devenir membre d'une Église. Ils sont sauvés, ils suivent des cultes à distance, en ligne, sur Internet, ils disent qu'ils font partie du corps de Christ universel, mais ils ne sont pas ajoutés à l'Église locale. Dans le texte ici, quand il est dit « il ajoutait à l'Église », il s'agit de l'Église de Jérusalem, l'Église locale. Et donc, ils étaient ajoutés dans cette œuvre spirituelle. Alors, les premiers chrétiens étaient vraiment des témoins, c'est-à-dire ils parlaient du Seigneur autour d'eux. C'est essentiel quand vous êtes au travail ou en famille, avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, avec des connaissances, bien d'être en mode témoin. C'est-à-dire, on va parler du Seigneur, on va donner une pensée par rapport à Dieu, par rapport à notre foi, une expérience qu'on a faite. On est toujours prêt à parler de quelque chose du Seigneur. Ça, c'est notre part, être des témoins. C'est même l'activité principale. En réalité, à l'Église, on y est le mardi, le dimanche, quelquefois un petit peu en semaine, par-ci, par-là. Mais la plupart du temps, on est en dehors de l'église, le bâtiment. On est dispersé dans nos familles, au travail, aux activités. Et là, on est des témoins. Et c'est là qu'on va partager la bonne nouvelle. Donc, un exemple de témoin, c'est quand Pierre et Jean, qui sont l'église, mais ce n'était pas à une réunion, ils étaient en train de se rendre au temple. Et alors qu'ils sont quand même dans cet élan de foi pour venir dans la présence de Dieu, il voit un homme paralytique à l'entrée du temple, à la porte qui s'appelle Label. Et donc, il voit cet homme qui est impotent. Et ils ont à cœur, parce que quand on est témoin, on doit être en mode témoin, on a à cœur, dès qu'une occasion se présente, de parler du Seigneur. Et comme ils voient cet homme impotent, ils disent, moi je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ils avaient le Seigneur en eux, je te le donne. Voilà le mode témoin. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils sont dans la foi, ils partagent l'amour de Jésus, ils prient pour ce malade et Dieu opère une guérison miraculeuse ce jour-là parce qu'il y avait des témoins qui aiment le Seigneur et qui ont partagé leur foi tout simplement. Pareil, après la lapidation d'Étienne, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de chrétiens persécutés. Jusque-là, ils étaient restés à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils étaient persécutés, ils étaient obligés de changer de ville, ils sont partis dans la Judée, dans la Samarie, et puis finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le texte dit dans Actes chapitre 8, verset 4, alors qu'ils étaient en déplacement, et on pourrait voir ça à point de vue humain comme un échec, parce qu'ils ne pouvaient plus rester à Jérusalem, parce qu'ils étaient persécutés, maintenant ils devaient fuir. Mais Actes chapitre 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés, donc, ils devaient fuir les persécutions, ils allaient de lieu en lieu, Mais ils n'étaient pas dans un esprit de défaite. Ils n'étaient pas dans l'abattement ou dans le jugement par rapport à Dieu. Tous les problèmes qui nous arrivent, c'est Dieu qui nous les envoie, non. Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole, donc ils étaient en mode témoin. Ils profitaient de ce malheur des persécutions pour aller dans une autre localité et pour porter la bonne nouvelle plus loin. Et bien ça, c'est un principe que nous retrouvons pour nous. Ben, c'est qu'à un moment donné, on va être en mode témoin pour parler du Seigneur à quelqu'un qui ne le connaît pas. Peut-être on a perdu un emploi, du coup, catastrophe, on n'a plus de travail, mais on va trouver un autre travail dans un autre environnement et ça sera l'occasion de témoigner à d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est en fait Dieu qui nous ouvre une porte. Peut-être on est atteint d'une maladie, on doit être hospitalisé. Eh bien, c'est l'occasion, dans ce milieu hospitalier, de parler du Seigneur peut-être à un autre malade, peut-être à un infirmier, à un médecin, et de donner une expérience, une parole du Seigneur, de donner un évangile. On est des témoins. Peut-être ça semble une mauvaise nouvelle d'être hospitalisé, mais combien de fois, en faisant des visites à l'hôpital, en voyant des personnes en souffrance, combien de fois j'ai vu que ça permettait à d'autres d'entendre la parole de Dieu. Même lorsque je faisais une visite à quelqu'un et qu'il y avait un autre malade à côté, on pouvait parler du Seigneur et la personne entendait les conversations sur le Seigneur et des fois elle était touchée, des fois on donnait même des Bibles à cette occasion. C'était l'occasion de témoigner. Donc c'est Dieu qui ouvre ses portes, il faut le saisir juste, bah, que nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle et que on doit être... en mode témoin, donc c'était l'évangélisation, hein, parler du Seigneur. Ça permet la croissance aussi de l'Église. Un autre principe qu'on voit dans ce passage qui favorise la croissance de l'Église, c'est la formation des disciples. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors ils étudiaient la parole de Dieu, c'était des études bibliques. Une partie du ministère des apôtres, en fait, c'était de développer les dons, les capacités que les chrétiens avaient reçues de Dieu pour qu'ils se mettent au service et fassent l'œuvre de Dieu. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné, c'est-à-dire Dieu, il a donné les uns comme apôtres. Donc ça, c'est Dieu qui suscite des ministères. Il appelle l'un, allez, lui, il sera apôtre. Un autre, il va être prophète. Les autres, comme évangéliste, c'est toujours Dieu qui détermine. Les autres comme pasteurs et docteurs. Et ici, il y a 5 ministères qui sont mentionnés. Mais à quoi ils servent ces 5 ministères ? Bien, Paul explique, ils servent pour le perfectionnement des saints. C'est quoi ? C'est l'Église. Les saints, c'est l'Église. En fait, pour que l'Église se perfectionne, rentre dans leur vocation, en vue du ministère, puisque chacun est appelé à un service, donc en vue que chacun puisse être à sa place dans l'œuvre de Dieu, et de l'édification du corps de Christ. Une autre version dit, il l'a fait pour former les saints, on pourrait dire les chrétiens, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ce terme, en fait, dans l'original, ça signifie pour les équiper, pour les former. C'est traduit dans la version seconde, le perfectionnement des saints. Mais comprenez plutôt la formation ou l'équipement. Et voilà la tâche essentielle qui est assignée à ces 5 ministères, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, tout ça, ce sont des ministères. Mais leur rôle, leur vision, c'est de tout mettre en œuvre pour que les chrétiens soient formés dans les tâches que Dieu leur a confiées et qu'ils ne restent pas oisifs, mais qu'ils puissent servir le Seigneur de tout leur cœur. C'est un des rôles des pasteurs, c'est pourquoi nous faisons aussi de la formation de disciples, c'est important que chaque chrétien soit bien formé, et donc chacun a reçu ensuite des talents, des dons, on n'a pas tous le même don, il y a des choses que vous savez très bien faire que d'autres personnes ne pourront pas faire, donc chacun va avoir ses qualités, ses compétences, et puis servir selon les dons qu'on a donnés, que Dieu nous a donné, c'est une vraie source de joie. 1 Pierre 4, 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, et là il s'adresse à des chrétiens, que chacun de vous, les chrétiens, mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Alors le texte affirme deux choses. La première, c'est que tout chrétien a reçu un don, un potentiel, quelque chose à faire pour les autres. Et la deuxième chose, c'est que tout croyant doit se mettre au service des autres pour accomplir quelque chose pour le Seigneur. C'est ce qu'on appelle les œuvres chrétiennes. Et donc, Pierre le dit simplement, mais c'est qu'il ne devrait y avoir personne d'oisif dans l'Église. Tout le monde devrait être investi dans un service, dans une activité pour les autres, mais c'est pour servir Dieu, mais en même temps, c'est se mettre au service des autres. Les services vont évoluer. Peut-être on va commencer par des tâches qui ne sont pas très en vue, comme le ménage, comme s'occuper peut-être des enfants le dimanche matin, comme avoir une activité d'évangélisation, etc. Et puis Dieu peut nous appeler, nous conduire à d'autres tâches, comme conduire la louange, un ministère, peut-être pasteur, enseignant, évangéliste, missionnaire. Et tout cela, c'est Dieu qui dirige. Mais je dirais qu'il faut commencer avec ce qui est à notre portée. Par exemple, Philippe, dans la Bible, on connaît bien Philippe, il a fait partie des diacres. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est les diacres, c'était ceux qui étaient chargés du service aux tables. Tout simplement, ils servaient aux tables. Ce n'était pas un service très élevé, mais c'était déjà un service où on devait lui faire confiance pour qu'il se mette à disposition des apôtres pour servir aux tables. Les apôtres, comme ça, se consacraient à la parole et à la prière. Il a commencé comme ça. Mais il ne s'est pas arrêté là parce que Dieu avait plus pour lui. Et plus tard, on le voit qu'il est devenu évangéliste. Il a commencé donc diacre, service pratique, service aux tables. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il aspirait à davantage. Tous les diacres ne sont pas devenus des évangélistes. Mais celui-ci, il avait quelque chose dans son cœur pour le Seigneur. Et puis Dieu l'a poussé, l'a appelé à devenir évangéliste. Et on le retrouve, il prêche l'évangile à Samarie. Tous les diacres n'ont pas prêché l'évangile. Mais lui, oui, parce qu'il a eu donc une évolution dans son appel. Mais il a commencé par servir tout simplement sur ce qui était à sa disposition. Et puis, vous voyez, Dieu l'a poussé plus loin. Mais si vous regardez Paul, c'est pareil. Paul était d'abord dans une église locale à Antioche. Il servait le Seigneur dans ses dons, c'est-à-dire il enseignait. Il avait déjà des qualités d'enseignant. Il aurait pu rester dans l'église d'Antioche et faire beaucoup de bien à l'église par ses qualités d'enseignant et ses dons qu'il avait reçus. Donc il mettait déjà au service des autres le don qu'il avait reçu. Mais Dieu avait un autre projet pour lui, c'était qu'il devienne apôtre. Et donc il l'a poussé lors d'un jeûne et prière de mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, et c'était de devenir apôtre. Apôtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait quitter l'église locale, l'église d'Antioche. Là, il était enseignant, et peut-être qu'il avait, il s'était dit, ben voilà, je suis dans l'église d'Antioche. Peut-être tout son ministère, il aurait pu le faire là, mais non. Dieu l'a poussé d'église à ouvrir des églises dans le bassin méditerranéen et à fonder des églises, à devenir apôtre, et ça a été un ministère extraordinaire. Donc voilà, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont commencé petits, là où Dieu les a mis, et puis Dieu a ouvert des portes pour eux, pour les conduire là où ils désiraient. Alors tout le monde ne devient pas évangéliste, pasteur ou apôtre ou tel ou missionnaire, mais tout le monde peut faire quelque chose pour le Seigneur à sa portée, à son niveau, et ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Tout le monde sait faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Et donc c'est tout ce que vous savez faire, eh bien mettez-le au service du Seigneur. Commencez par vous rendre disponible. Priez pour savoir qu'est-ce que Dieu, tu attends de ma vie, qu'est-ce que tu veux faire de moi. Commencez à servir selon les besoins et Dieu va vous aiguiller dans votre vie spirituelle plus précisément. Il y a un verset dans Ecclésiaste 9:10 qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le ». Donc il y a des œuvres qui sont là. Alors bien sûr, vous allez le faire avec la force que Dieu vous donne. Vous ne pourrez pas faire toutes les œuvres, mais vous pourrez en faire peut-être une, deux. Certains peuvent en faire trois, suivant les capacités que chacun a reçues. Mais en tout cas, fais-le avec la force que tu as reçue. Un cinquième principe que l'on voit dans ce texte, c'est maintenant la crainte de Dieu, au verset 43. Le texte dit que la crainte s'emparait de chacun, la crainte de Dieu. Ça aussi, c'est favorable à la croissance, parce que c'est quoi la crainte? C'est un saint respect de la présence de Dieu. Et quand on vient dans nos rassemblements, eh bien, nous devons prendre au sérieux les choses de Dieu et avoir la crainte de Dieu, que Dieu est là. Hein, on n'est pas là à discuter, le culte a commencé, on n'est pas là dans le hall à discuter de ce qui s'est passé la semaine, la veille, on aura le temps après. Mais on a la crainte de Dieu, donc on n'est pas en retard, on est là dans la présence de Dieu, on n'est pas négligent, on n'est pas à côté, on n'est pas à côté du moment divin. La crainte de Dieu va générer un zèle pour sa maison, un zèle pour son service. C'est quand la crainte de Dieu diminue que la négligence s'installe. Dans Jérémie 48, 10, il est dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Ça, ça déplaît au Seigneur parce que la personne, elle est négligente. Elle n'a pas la crainte de Dieu. C'est comme si Dieu n'était pas là. C'est comme si Dieu ne le voyait pas. Alors il se moque de Dieu et finalement, la Bible dit « Il est maudit, il n'y a pas de bénédiction sur sa vie, il n'y a pas de fruit sur sa vie parce qu'il néglige les œuvres de l'Éternel. » Alors peut-être si la passion a disparu, si notre zèle pour Dieu a diminué, eh bien prions le Seigneur pour qu'il soit ranimé, que Dieu rallume un feu nouveau dans nos cœurs, afin qu'on ne soit pas négligent, qu'on ait toujours la crainte de Dieu, c'est-à-dire un saint respect pour sa présence et puis un cœur pour le Seigneur. Ça, c'est un autre principe, donc la crainte de Dieu. Un sixième principe, c'est maintenant l'amour fraternel, au verset 42, acte 2, 42, il persévérait dans la communion fraternelle. Ça aussi, c'est un principe qui favorise la croissance. Il y avait la communion fraternelle, la fraction du pain, et l'Église, c'est vraiment le lieu pour vivre le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses sont vraiment, dans l'Église, un terrain d'exercice pour nous. Et c'est important, ben, par exemple, d'accueillir les frères ou les personnes ou les sœurs. Toute personne qui vient pour la première fois, eh bien, on va l'accueillir comme une personne... comme Christ nous a accueillis, comme dit la parole, accueillons-les comme Christ nous a accueillis, avec amour, et c'est ainsi qu'on va développer la communion fraternelle. Alors ça, c'est notre part. Soyons accueillants, soyons bienveillants. Vous voyez, quand une personne nouvelle vient, plutôt que de l'éviter ou que de la fuir, allons vers elle pour la saluer, pour lui dire quelques mots d'accueil, de bienvenue. Hein, souvent, le réflexe premier, c'est de se retrouver entre nous. On se connaît, alors on connaît trois personnes, alors on va toujours vers les trois mêmes personnes. Une fois, j'ai rencontré une personne dans l'église qui m'a dit « Moi, je ne connais qu'une seule personne dans l'église. » Parce que tous les dimanches, elle va voir la même personne et puis ils discutent ensemble. Ils ne font pas l'effort. Alors évidemment, ça restreint les possibilités. Mais si on se donne un petit défi de se dire bah, « Je vais aller saluer cette personne, je vais aller parler à une autre personne. » Mais petit à petit, on développe des relations et la communion. Mais c'est une décision à prendre. Et je dis, c'est un effort parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. On aime bien toujours nos habitudes. Vous avez remarqué qu'on aime bien toujours prendre la même place. C'est encore vrai ce soir, plus ou moins, hein, on prend toujours les mêmes places. On aime bien parce que c'est notre petit confort. Alors on est environné de toujours les mêmes personnes qu'on connaît bien, là, toujours, à ma gauche, à ma droite, derrière, voilà, on se connaît. Et finalement, on aime bien ça, naturellement, ça c'est notre petit confort. Mais si vous voulez vivre la communion fraternelle comme la Bible nous y engage, il ne faut pas suivre la nature humaine. La nature aime le confort et se restreindre à deux, trois personnes qu'on aime bien, on se trouve ensemble. Mais de pouvoir développer des relations plus étendues, peut-être avec une personne qu'on ne connaît pas ou qui vient pour la première fois, et d'aller vers elle et de la saluer, de lui parler quelques mots, eh bien, c'est important parce que si cette personne se sent aimée, si elle se sent accueillie, bien elle reviendra. Et puis, petit à petit, son cœur sera touché. Si elle n'est pas chrétienne, elle pourra être même touchée par le Saint-Esprit, être convaincue de péché et se donner au Seigneur. Donc ça, c'est notre part. C'est d'être accueillant, c'est de vivre l'amour fraternel, c'est d'être bienveillant les uns envers les autres. Et ça, c'est un vecteur de croissance. Septième caractéristique de la croissance qu'on voit dans ce texte, c'est que l'Église vivait la louange. Au verset 46 et 47, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Donc il trouvait toujours le temps de louer Dieu, de l'adorer, quelles que soient les circonstances. Des fois j'entends des chrétiens me dire « Ah mais moi, je ne vais pas très bien, alors je ne vais pas au culte ». Mais justement, même quand on ne va pas très bien, on est renouvelé dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Et quelquefois, on a fait l'expérience, on n'était pas bien, on n'était pas en forme, ou on n'était pas bien moralement, et puis dans la présence de Dieu, on est renouvelé. Mais quand on se coupe de la louange ou de la communion, ben finalement, on s'étiole, on s'affaiblit. Et puis, quand on vient dans la présence de Dieu, venons pour le louer de tout notre cœur. Élevons la voix. N'ayez pas peur d'ouvrir votre bouche et de dire quelques mots au Seigneur. Ça, c'est une bénédiction. Beaucoup, le diable veut beaucoup nous fermer la bouche. « Tu es un mauvais chrétien, ce n'est pas la peine de prier. Regarde comment tu vis, tu donnes un mauvais témoignage. » Il va vous culpabiliser, vous mettre un fardeau sur les épaules. Alors enlevez ce fardeau, venez avec un cœur renouvelé et priez le Seigneur de tout votre cœur. Demandez au Seigneur de vous aider à le louer de tout votre cœur. Il va aussi travailler dans votre cœur et vous aider. Le huitième et dernier principe que je vois ici, c'est que il y avait des miracles et des prodiges au verset 48. Il se faisait beaucoup de miracles et des prodiges par les apôtres. Et effectivement, les miracles, les guérisons, une intervention de Dieu, ça attire des gens pour venir écouter le message de la parole de Dieu. On le voit dans Acte 8, par exemple, je parlais de Philippe, il avait été diacre. Là, il se retrouve en Samarie, il est évangéliste. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Pourquoi ? Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc, c'est vrai que quand la main de Dieu est là, quand il y a une action puissante de Dieu qui guérit, qui délivre, eh bien, ça attire l'intérêt, ça attire l'attention de personnes qui sont dans les environs. Et ces personnes qui ne sont pas encore sauvées, elles sont interpellées, mais elles font déjà le pas de venir écouter la parole de Dieu et ça permet, pas obligatoirement, mais certains du moins, ouvrent leur cœur, sont touchés et se convertissent. En conclusion, on voit ici 8 principes qui sont vraiment dans la parole pour nous montrer que la volonté de Dieu, encore aujourd'hui, c'est que son Église grandisse, qu'elle prospère, qu'elle se développe. Et on a vraiment dans les Actes des Apôtres beaucoup de principes. Les temps ont changé. C'est vrai qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes manières de faire qu'aujourd'hui, les mêmes technologies, etc. Mais les principes demeurent. Le livre des Actes des Apôtres, eh bien, c'est les principes pour l'Église et ils sont applicables à toutes les générations. Donc ne négligeons pas la parole. On se dit, nous on va axer sur la prière, mais que par exemple, on ne s'occupe pas du tout d'évangélisation, on dit, on se laisse le Seigneur se débrouiller pour l'évangélisation, eh bien on néglige un des principes que Dieu nous demande, c'est de témoigner. Si par exemple on dit, on va développer la louange, mais qu'on néglige la communion fraternelle, on néglige un autre principe qui est important d'être bienveillant avec les autres, finalement on passe à côté du plan de Dieu. Et puis si on insiste beaucoup sur la formation, on va dire on va faire la formation, mais qu'on néglige la prière, finalement on néglige un aspect. Donc il faut vraiment, je dirais, mettre tous les aspects devant nos yeux et les développer ensemble pour la gloire de Dieu. Ça, c'est notre part. Appliquer les principes que Dieu nous met dans sa parole. Et puis, la part de Dieu, c'est de toucher les cœurs. Il y a des convictions de péché, il y a des repentances, il y a des conversions, des nouvelles naissances. Dieu sauve des perdus, Dieu guérit des malades. Ça, nous nous attendons à l'action du Seigneur. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole qui nous montre tous ces principes qui sont là devant nos yeux, pour la croissance de ton Église, et nous voulons, Seigneur, les mettre en pratique, être de ceux qui sont des témoins, qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, qui prient dans le nom de Jésus, qui s'attendent à des miracles, parce que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, avoir cet amour fraternel, les uns pour les autres, être de ceux qui louent ton nom, en toutes circonstances, favorables ou non, nous réalisons que, encore aujourd'hui, c'est ta volonté, Seigneur, que l'Église, ton Église, puisse porter du fruit et amener encore des personnes qui ne te connaissent pas à la connaissance de ton nom. Oui, Seigneur, nous voulons garder dans nos cœurs tous ces principes, les méditer, chercher à les développer encore davantage et que chacun puisse mettre au service des autres le don, le talent qu'il a reçu pour la seule gloire de ton nom. Amen.